train. Je vais avoir besoin parce que je suis pas venu de la maison.
Là, 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 là.
Ouais,
porte de gauche.
Porte de gauche.
Très bien. Ah ben c'est parfait.
T'as le mur, t'as la
alors tu cherches une toireuse.
Une toireuse, oui.
Comment tu vas?
J'ai trouvé la Bible. Ça fera son affaire.
Yofi. Tov. Les amis.
T'es content de nous voir?
Ben d'abord, oui.
D'abord, tu dis comme ça.
D'abord, on est très content de se voir, effectivement. Il y en a marre du Zoom. Voilà, donc ça c'est une première chose. Vie et prospérité pour tout le monde.
Amen. Amen.
En bonne santé.
Amen.
Jusqu'à 150 ans.
Amen.
Amen.
On aura des prolongations.
Bah ouais, attends.
Prospérité, prospérité, les copains à l'âge où on est, on fait avec ce qu'on a. Hein.
Non, mais Zrat Hashem, Yétov. Alors, notre cours, évidemment, il est les Elohi Nishmat, Yaakov, Ben Elazar.
Oui.
Et alors, on peut quand même les Elohi Nishmat.
Ah, okay.
On peut aussi dédier les Elohi Nishmat des frères Bogdanov, hein,
oui.
Qui nous ont quittés.
Ah oui, tu te rends compte?
Mais, non, mais... 6 jours, les gars, Corona.
Corona.
Hein? Mais moi, je les trouvais bien, ces mecs-là. Moi, je l'ai trouvé pas mal.
Ils ont fait des faux films.
En tout cas, voilà. Et on revient dans notre étude du livre de Bereshit. Nous sommes au chapitre 12, 13, tu dis déjà ?
13, chapitre 13.
Alors, si tu le dis. Chapitre 13. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que voilà. Abraham. Donc, on est rentré dans l'histoire d'Abraham.
Chapitre 13, c'est l'Achlecha.
Tout à fait.
C'est le début.
C'est pas le début de l'Achlecha.
Non, c'est
parce que le début de l'Achlecha, c'est 12.
Ah, d'accord.
Et donc, on a fait le chapitre 12. Voilà. Donc, Abraham, on a dit, je récapitule, il y a deux projets qui s'opposent. Il y a le projet d'Akadosh Baruch Hu, qui a dit à Abraham, je veux faire de toi un grand peuple. Et d'un autre côté, il y a le projet d'Abraham, qui veut créer une grande religion cosmopolite. Donc, que faire? Qui a raison? Eh bien, pour l'instant, Abraham n'accepte pas le projet divin. Il part, certes, tel que Dieu lui a dit, c'est-à-dire tout seul, mais finalement, il revient, ce qu'on a vu, et il reprend avec lui tous ses élèves de Haran. En d'autres termes, il ne veut pas se séparer de son idéal d'avant. Lorsqu'il arrive en Israël, il a compris que les gens qu'il a amenés avec lui, Dieu n'en voulait vraiment pas. Et donc, il tente sa chance ailleurs. Et il va en Égypte. Et en Égypte, lui arrivent toutes les péripéties qu'on connaît avec Pharaon et Sarah. Mais finalement, il a quand même réussi son coup parce qu'il rentre d'Égypte avec un allié de choix. Pharaon est devenu l'allié d'Abraham puisqu'il lui donne comme stage d'étude sa fille. Sa fille vient étudier chez Abraham. Comment est-ce qu'on paye les frais de scolarité à l'époque, eh ben on devient une servante. Et donc, la fille de Pharaon, Agar, alors c'est le Midrash, certes, c'est pas marqué dans la Torah. Dans la Torah, on nous dit qu'il a reçu une servante pour Sarah. Mais on va nous dire que c'est la fille de Pharaon. En d'autres termes, il y a une influence de la Torah d'Abraham qui va arriver jusque là-bas. Mais Abraham rentre en Israël. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, allons-y. Chapitre 13, verset Aleph. ויעל אברהם ממצרים ובאשתו וכל אשר לו ולוט אמו הנגבה. Donc il monte vers le désert du Negev et bah Abraham c'est plus un petit bonhomme. Il pèse lourd maintenant dans le game puisqu'il a des richesses énormes qu'il a amassées avec lui en Égypte. Donc c'est plus la même organisation de partir tout seul que de partir avec maintenant eh bien, tout un groupe de personnages. Ce n'est pas les mêmes gens que ceux qu'il a amenés de Babylone. De Haran, pas de Babylone, de Haran. Mais il est maintenant accompagné de plein de monde. Il est une entité politique. Ce n'est plus un simple individu. Quelque part, on est en train de l'obliger à accepter le projet divin, bien que ce projet ne doive pas se faire avec des étrangers, mais doit se faire avec une famille. Donc c'est ce qu'on va voir, comment ça va évoluer. Ve'Avraham kaved me'od be'mikne ba'kesef u'ba'zav. Vous vous rappelez pourquoi il a reçu tellement? Parce qu'on avait dit qu'il avait joué la carte de Sarah, c'est ma sœur, pour que les Égyptiens me donnent des cadeaux. Vous vous rappelez? Le mani tavli ba'avurer, itnouli matanot. D'accord? Donc, וילך למסעיו מנגב ועד בית אל, עד המקום אשר היה שם העולו בתחילה, בין בית אל ובין העי. En fait, il reprend un nouveau départ. El mekom ha-mizbeach asher asa sham barishona va'yikra sham Avraham b'shem Hashem. Donc, le projet pour lui est clair. Même si pour l'instant, je ne suis pas d'accord avec Dieu sur comment je dois réaliser la chose, je sais que ça doit être dans l'optique de l'ikro b'shem Hashem. D'invoquer le nom de Dieu, de rappeler au monde le nom divin, c'est ce que les gens avaient oublié à la tour de Babel, et c'est ce que lui veut rappeler. D'accord ? וגם לילות, ההולך את אברהם היה צאן ובקר ואוהלים. כמו זה שכל לילות, il était très riche aussi. Parce que quoi?
C'est un bon commerçant.
C'est un bon commerçant? Alors, je vous pose la question, je repose ce que je viens de poser comme question il y a deux secondes. Comment ça se fait qu'Abraham, il est riche?
Il
a fait, parce qu'il a joué la carte de... Qui, en
la
disant
sœur,
que il a fait. Quelles sont les relations de famille entre Lot et Sarah?
Sarah et sa tante.
Tante par alliance.
Oui. Non. Puisqu'elle est la sœur de Lot. Et que Lot, c'est le neveu d'Abraham, non?
Qui est la sœur de Lot?
Sarah, c'est pas la sœur de Lot.
Bah si.
Non.
Hein?
Bah si. Bah si,
oui. J'ai demandé quels sont les liens de parenté entre Lot et Sarah. Vous me dites la nièce par alliance du cousin, du voisin de au troisième degré, c'est sa sœur.
Je crois que c'était par
rapport à
Abraham, c'était ça.
Non, oui, c'est sa sœur. C'est sa vraie sœur. Donc, sa vraie sœur, de père et de mère. Rappelez-vous, Sarah, c'est l'une des filles de Haran. Lot, c'est le fils de Haran. Donc, si Abraham, le coup de « c'est ma sœur », ça l'a enrichi, ben, Lot aussi. Lui aussi, c'était le frangin. Tout à l'heure. Donc, ça a marché pour les deux. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne nous en a pas parlé là-bas? Parce que ce n'est pas Lot qui est le projet de la Torah. Donc, tant que ça ne va pas avoir une influence sur le projet divin, on n'en parle pas. Il faut le savoir que ça existe. Donc, « Vegam le Lot, ha-olech et Avram, ha-yatsanu bakar ve-ohalim. Velo nasa otam ha-aretz la-shevet yachdav, ki haya rechusham rav, velo yachlu la-shevet yachdav. » Ils ne peuvent plus rester ensemble, ils ont trop de biens matériels. Comme on dit dans l'époque des westerns, cette ville est trop petite pour nous deux. Ça a l'air. Maintenant, deux secondes. Lot se voit comment? Imaginons, retournons deux secondes dans la tête de M. Lot. Il est le frère de Sarah, mais il est surtout le neveu d'Abraham. C'est Abraham qui est le patron ici. Maintenant, Abraham, il est plutôt jeune et il n'a pas d'enfant.
Eh ben, c'est lui l'héritier.
Eh ben voilà. Vayehi riv, ben roé mikne Avram ou ben roé mikne Lot. Quelle est la dispute qu'il y a entre les équipes d'Avraham, les bergers d'Avraham et les bergers de Lot? Alors on nous dit, le Midrash, Rashi le reprend, il dit c'est quoi la dispute? C'est que Lot allait faire paître ses troupeaux dans les champs qui ne lui appartenaient pas. Mais quel était son argument? Il dit ben, ça va m'appartenir. Puisque toute la terre a été donnée à Abraham et à ses descendants, il n'a pas de descendants, donc après lui, c'est moi. Et les bergers d'Abraham disaient, mais non, Abraham nous a dit que tant qu'on ne les a pas achetés, ce n'est pas à nous. Tant qu'on ne les a pas conquis, ce n'est pas à nous. Et bidouk, c'est pour ça qu'on nous dit, vers Kenaani Asbaharet. C'est-à-dire que là, pour l'instant, la terre, elle appartient aux Cananéens. Donc, il y a une rive. Comment? Ça veut dire quoi, rive? C'est un litige qui se règle au tribunal. Un litige qui se règle à l'amiable, ça s'appelle Meriva. Donc là, c'est une rive. Ok, donc,
c'est la même racine.
Oui, c'est la même racine, bien sûr. Mais dans la Torah, rive, c'est un truc qu'on doit aller en justice. Meriva, on peut gérer ça entre nous. Mais la Torah présente le problème entre Lot et Avraham comme étant rive. C'est-à-dire qu'Avraham aurait dû prendre le problème à bras le corps et véritablement régler la chose. Comment il aurait dû régler? Bon, en mettant une bonne paire de claques à l'autre et en le remettant dans le droit chemin. En expliquant, allô, on ne vole pas, c'est pas encore à nous, et puis on n'en parle plus. Seulement, Abraham, quel est son grand attribut? Chesed. Abraham a beaucoup de mal avec la notion de din. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, regardez. Vayeriv ben roé mikne Abraham ou ben roé mikne Lot, vakna anias de chef baaretz, vayomer Abraham el Lot. Al natei meriva Béni ou Benecha. Il y avait une rive, mais Abraham veut faire en sorte que ce soit une Meriva. Viens, on règle ça entre nous tranquillement. Pourquoi ? Regardez ce qu'il dit. Béni ou Benecha, Ben Roi ou Ben Roecha, Ki Anashim Achim Anachnu. Car nous sommes des frères. Et alors ? Eh bien, j'ai vu où ça menait quand deux frères se disputaient. Vous vous rappelez de deux frères qui se sont disputés ? Cain et Abel. J'ai pas envie de te tuer. Et donc, quel est le projet d'Abraham pour régler le problème ? Ben, on va se séparer. On va se séparer. On n'arrive pas à vivre ensemble, alors on se sépare. Maintenant, deux secondes. On parle donc de deux identités différentes qui ont la même origine, qui sont tous les deux, on va dire, plus ou moins monothéistes, et qui prônent tous les deux d'être les patrons sur la terre d'Israël. Toute ressemblance avec des cas actuels serait purement fortuite, involontaire. Deux identités, tous les deux monothéistes, qui revendiquent la même origine et revendiquent le patronat sur la terre d'Israël. Ça me fait penser à des choses, mais je ne sais pas. Et donc Abraham dit, on se sépare. Top. Et là, Abraham va dire, choisis. Là où tu vas, j'irai pas. Pas comme dans la chanson.
Mais tu choisis.
Bah, la chanson, il paraît que là où tu iras, j'irai. Mais là, non. Et il semblerait qu'Abraham n'avait pas de culture musicale française. Allo, kol haaretz lefanecha. Iparet na me'alai, im asemol ve'emina. Ve'im ayamin, asme'ila, ve'asme'ila. Vaïssa lot et enav, vayar et kol kikar yarden ki kula mashke. לפני שחט השם את סדום ואת עמורה, כגן השם, כארץ מצרים בו החצורה. Donc il regarde où? Il regarde toute la vallée du Jourdain. Et la vallée du Jourdain, donc Yericho par exemple, Bikat Yericho, et il voit que c'est le paradis. Et c'est effectivement le paradis. C'est ma mâche, on ne se rend pas compte nous. Pourquoi nous on ne se rend pas compte que c'est un paradis Yericho, la région d'Yericho? C'est trop chaud. Tu te dis peut-être qu'ils étaient en mars.
Oui, parce qu'on ne peut pas y aller de l'eau.
On peut y aller.
Il y a de l'eau.
Ouais, mais là aujourd'hui, si je t'avais demandé de me décrire Yericho, tu m'aurais pas forcément dit paradis.
Non, mais quand on l'a vu.
Il y a beaucoup d'arbres.
Non, quand on l'a vu, c'était.
Comment ça, il y a longtemps? Quand tu l'as vu?
Quand j'étais adolescente,
j'avais. Ah, et donc tu avais vu que c'était magnifique.
Ouais. Oui, oui,
c'était bien magnifique. Et ça l'était encore beaucoup plus à l'époque. Pourquoi? Parce que toute là, je parle pas que de la ville, hein, je parle de toute la région. Toute la région, aujourd'hui, on a un grand problème, c'est que eh bien, le Jourdain n'est pratiquement pas alimenté à ce niveau-là. Pourquoi il n'est pratiquement pas alimenté à ce niveau-là? Parce que je vous rappelle qu'on a créé le barrage de Dgania. C'est-à-dire l'eau du lac de Tibériade ne peut plus descendre comme il veut vers la mer Morte. C'est-à-dire qu'on pompe énormément aujourd'hui. Ce qui fait que toute la vallée du Jourdain, elle est beaucoup plus aride qu'elle ne l'était à l'époque. Et donc, quand tu arrives vers la vallée de la mer morte, c'est-à-dire vers Yericho, en fait, c'est l'endroit le plus chargé en eau de tout Israël. Pourquoi? Parce que ça descend, ça récupère toute l'eau qui vient du nord, de Tibériade, ce que tu veux, et ça récupère toute l'eau qui vient de l'est vers Jérusalem, depuis Jérusalem. Donc, c'est vraiment un endroit qui est très, très riche en eau, normalement. Pourquoi ça n'est pas aujourd'hui? Ben parce que toute l'eau de Jérusalem est récupérée par les nappes phréatiques et toute l'eau du lac de Tibériade est freinée par le barrage de Dgania. Donc, on a un problème parce qu'aujourd'hui, on ne se rend pas compte de la beauté de cet endroit-là. Mais à l'époque où Lot y regarde, c'est magnifique. Et ça va au-delà de ça.
Il a été construit quand le barrage de Dgania?
À peu près début des années 50. C'est un des premiers chantiers pour garder l'eau du lac de Tibériade. Maintenant, quel est le problème ici? Le problème, il est le suivant. Lot ne veut pas aller s'installer à Yericho, il veut aller s'installer à Sdom. La Torah nous présente Sdom. Et comment elle nous la présente? Comme étant Kegan Hashem. Je redis le verset. Vaïssa Lot et Enav, Vayar et Kol Kikara Yarden. Donc ça, c'est voilà, l'ambiance de Yericho et de la région. Qui coule à Mashke, il y a de l'eau partout. Lifne shachet Hashem et Sdom et Amora, ke gan Hashem, ke eretz Mitzrayim bo achat soar. C'est-à-dire que Sdom, la région de Sdom, Sdom en particulier, est présentée comme étant le jardin de Dieu. Ah, ça a beaucoup changé. Hein. Et cette appellation, on ne va pas l'évoquer maintenant, mais on l'évoquera quand on sera arrivé à la paracha de Vayera, et on verra la destruction de Sodome. On sera obligé de revenir à ce verset-là pour essayer de comprendre. En tout cas, Lot, lui, il veut partir là-bas pour des raisons business. C'est-à-dire, c'est la richesse, il va là-bas. Vous savez ?
Qu'est-ce que ça veut dire,
Boachat Soar ? Keeretz Mitzrayim, qui nous fait penser quand on va à Tsoar. Tsoar, c'est une des villes qui est à côté de Sdom. Quand tu arrives là-bas, tu avais l'impression d'arriver dans l'opulence de l'abondance de l'Égypte. Donc on te dit quoi ? Vaivrar lolot et kol kikar yarden, vaisa lot mikedem, vaipardu ish me'al achiv. En d'autres termes, est-ce que Abraham a réglé le problème ? Non. Non, Abraham lui a dit, pars, on se sépare. Il n'a pas réglé le problème.
Pourquoi il laisse Lot choisir ?
Parce qu'il est chesed. Il est trop gentil, c'est ça qu'on dit. Il n'a pas voulu régler le problème. Il a dit, autruche. Mais il n'y a pas de problème.
Peut-être que
Ça, c'est évident.
Rien ne se fait sans que...
Ça, c'est évident. Mais ça, c'est une carte joker qu'on ne peut pas utiliser parce que c'est vrai tout le temps. C'est quand tu me dis, c'est Akadosh Baruch Hu qui quelque part gère un peu tout ça. Bien sûr que Dieu il a un plan derrière tout ça, c'est évident. Mais nous on veut essayer de comprendre pas seulement son plan à lui, mais également qu'ont les protagonistes dans la tête à ce moment-là. C'est-à-dire que le fait que Dieu il a envie de gérer un truc, ok, mais le libre arbitre il est resté aux hommes. Donc pourquoi Lot fait ce qu'il fait ? Pourquoi Abraham fait ce qu'il fait ? D'accord ? Donc pourquoi Abraham fait ça ? Parce qu'il veut pas régler le problème. Résultat des courses, Dieu lui dit, tu ne vas pas avoir le choix de le régler. Regardez. Vaivrar lo donc lot et kelkach ha'ere vaisa lot mikenem vaipardu ishme alachim. Avraham yashav be'eretz kenan velot yashav be'ara kikar vayeal ad sedom. Donc il va s'installer à Sdom. Vanche sedom ra'im vechataim la'ashem me'od. Ok. Ça va avoir son importance plus tard. Parce que maintenant... והשם אמר אל אברהם אחרי יפרט לוט מאימו maintenant que Abraham a laissé partir Lot en lui disant en fait très bien là où toi tu vas moi je vais pas donc ça veut dire je n'hériterai pas de cet endroit là Dieu m'a promis une terre mais en fait cette partie là je m'en sépare c'est pas pour moi j'en veux plus c'est pour toi et donc là Dieu lui parle une fois qu'il s'est séparé de Lot et il lui dit iné Sana enecha ure'e, lève tes yeux et regarde. Mina makom asher ata sham tsafona va negba kedma va yama. Ça, c'est le verset que tous les mouvements de jeunesse ils chantent ici en Israël religieux. Ils disent Ki et kol haaretz asher ata roe, lecha et enena ou lezaracha adolam. Donc, y compris, y compris la terre de Lot, qu'il a donné à Lot. Non, Dieu lui dit non, 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 non. Lecha ou l'zarcha adolam. Tu as voulu régler le problème en disant il n'y a pas de problème. Eh bien, tu verras, il y aura un problème. Non seulement il y aura un problème, mais il sera beaucoup plus grand que si tu l'avais réglé à temps. C'est-à-dire, oh oh, alors qu'est-ce qui va se passer ? Vesamti et zarcha ke afar haaretz, asherim yuchal, ish limnot et afar haaretz, gam zarcha yimane.
Comment il aurait dû régler ce problème ?
Ah ben, il aurait dû garder Lot chez lui et lui mettre deux flics et lui expliquer qu'on ne vole pas la nourriture des autres et conquérir la terre d'Israël.
Ah oui, c'est pas la même chose.
Ah ben non, c'est pas du tout la même chose. C'était le programme que Dieu lui avait donné. Mais pour l'instant, on a dit Abraham, il n'est pas encore prêt à remplir le projet de Dieu. Alors, on va voir comment ça va évoluer, cette histoire. Parce que maintenant, nous avons donc deux séparations bizarres. Qu'est-ce qui se passe ? הנה, ושמתי את זרחה כאפר הארץ, אשר אם יוכל איש למנות את אפר הארץ, גם זרחה ימנה. Tu seras, ta descendance sera-t-elle la poussière de la terre, de la même façon qu'on ne peut pas compter la poussière, eh bien, c'est comme ça qu'on ne pourra pas compter quelque part tes descendants. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Tu auras des enfants.
C'est-à-dire que tu auras des enfants, ça c'est vrai, Mais est-ce qu'on a un indicatif quantitatif? Parce que d'habitude, on a, qu'est-ce qu'on entend? Que, ou, alors, il y aura aussi une question d'étoiles à un moment donné, mais que tes enfants seront aussi nombreux que les étoiles du ciel ou que la poussière de la terre. Mais c'est pas ça qu'on dit. On dit « Im tuchal les manotes ». Et bien, mettre. On peut compter combien il y a de poussière?
Non.
Donc ça veut dire que Am Israël, tu auras une descendance, mais elle n'est pas quantifiable. Ce n'est pas un peuple quantitatif, le peuple juif. Et c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de compter, bien sûr. Parce qu'on n'est pas 1, 2, 3, 4, 5. On n'est pas un chiffre. Mais même pour Minyan. Même pour Minyan. C'est très intéressant ce que tu dis. Même pour le Minyan. Alors déjà, voilà. Ça, c'est un truc technique. C'est-à-dire pour ne pas compter les gens, on dit un verset. On dit Oshia et Amecha, Ovarech et Nachalatecha, Oem Venasem, Ad Olam. Parce que c'est un verset qui a 10 mots. Et donc, en fait, on regarde les gens et on met un des mots du verset sur chacun des. Mais ça, c'est technique. Comment on appelle le dixième du Minyan?
Le
10 de Der. Comment on l'appelle en yiddish? On dit Center. Mais c'est Center. Hein?
Non,
c'est le dixième. C'est le dixième. Mais c'est le qui est le dixième? En fait, ce n'est pas celui qui arrive en dixième. C'est chacun des dix. Quelque part, il est lui le dixième, parce que s'il s'en va... Donc ça veut dire que même dans le minyan, en fait, c'est pas 1 plus 1 plus 1, c'est 10. Ok? T'avises pas d'aller aux toilettes pendant qu'on fait la doucha.
Hein?
Ça compte en zoom? C'est, bah, c'est... Écoute, ça a été les grands débats d'il y a deux ans, du début du zoom, et des minyan mirpasot, minyan zoom, machin, hein? Compliqué. Compliqué.
C'est une question qu'on nous a posée.
Compliqué de dire que le zoom, ça compte pour le minyan. Par contre... Ce que le rabbinat il avait dit, c'est que s'il y a un minyan et que toi tu peux pas y aller mais que tu es en zoom, tu peux quand même dire kaddish. Parce qu'il y a un minyan. Mais faire un minyan de zoomer, compliqué. C'est-à-dire, alors c'est pareil pour le minyan d'Emir Pesot. C'est pas aussi évident, hein, surtout vous à Quadra, il y a eu pendant très longtemps le minyan d'Emir Pesot. Pas aussi pachout de dire que le mec qui est là et machin et l'autre il est là-bas, machin, ça compte dans le minyan. Mais on dry, comme on dit en arabe. On s'arrange. Et voilà ça. Donc, Bekitsour, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Koum italech ba'aretz le'orka ou le'rochba kilecha et enena. Et là, je tiens à vous le dire, c'est mon autre casquette qui parle, la casquette du guide qui ne guide plus beaucoup. La première mitzvah que Dieu donne à Abraham en terre d'Israël, c'est d'aller faire un tioul. Koum, lech italer ba'aretz. Va te balader en Israël. C'est une mitzvah. Donc quand vous faites un tioul en Israël, sachez que vous faites une mitzvah, celle que Abraham a reçue en Eretz Israël. D'accord?
Bah,
c'est très bien.
On doit toujours aller
avec toi.
À Givata Tachmosh.
Alors, tu sais quoi? Tu crois que ça m'est complètement sorti de la tête? J'organise un tioul à Givata Tachmosh dimanche.
Mais c'est pour Mishpat.
C'est vrai. Dimanche. Mais vu qu'on ne peut pas planter d'arbres cette année, tu veux aller où?
Ok. Non, mais.
Non, je veux dire, c'est un tioul qui va... Non, attends, le Mishpat, c'est dimanche soir. Alors, je crois que ça commence à midi, si je me trompe point.
Et on est combien?
C'est pas moi qui l'organise, en fait. Il y a quelqu'un qui organise.
Non, mais qu'on ne soit pas 50 en plus.
Eh bien, tu sais quoi, je vérifie.
C'est nul.
Je vais vérifier.
Alors, vérifie, parce que si on est nombreux, c'est nul.
C'est d'accord. Pourtant, sur les 50.
Bah si, c'est pas pareil.
Tu veux qu'on l'organise entre nous, quoi. Tu veux qu'on l'organise entre nous?
Non, un peu plus si tu veux.
Un peu plus que nous.
50, à 15,
10, 15. Bon, alors très bien. Alors on va l'organiser. Alors c'est clair. Alors à Zof dimanche, on l'organise entre nous à un autre moment.
Alors à quelle heure tu dis?
Mais non, ça dit que tu voulais pas venir.
Une autre fois.
On fait une autre fois entre nous. J'ai bien compris ce que tu disais. Ouais. Donc on sera entre nous. T'inquiète pas. Ouais. Ça va. Donc
Va te promener dans l'eau.
Va te promener, voilà. En l'eau, en large, qu'il est chayetena. Vayéal Avraham, vayavo, vayeshev be'eloné mamre, asher bechevron, vayaven sham mizbeach la'ashem. Donc, Avraham est dans un état compliqué. Parce que, en fait, il est revenu au point de départ. Il s'est séparé de Lot, mais Dieu lui a dit, t'as mal fait, c'est pas ça que t'aurais dû faire. Et je ne vais pas te laisser fuir des responsabilités que je veux te donner.
En PNL, on dit qu'il faut jamais éviter un problème.
Ben, tout à fait, parce qu'il va revenir.
Ah oui.
Et il va revenir en général plus durement. Nahan, c'est Nahan. Et donc là, on va mettre Abraham dans une situation où il va être obligé de faire les choses. Alors, c'est ce qui se passe ici, au chapitre 14. Vayi bime Amraphel, meler Shinar, ve'arioch meler Elassar, kedar laomer meler Eilam, ve'tidal meler Goyim. Je ne sais pas encore qui c'est ces gens-là, mais rien que ça, ils m'ont l'air d'être des grands bonhommes. C'est qui ces gens-là? Amraphel, nous dit Rashi, c'est le Midrash, c'est Nimrod. Parce que c'est celui qui a dit à Avraham de l'Ipol Baesh, Amra Fel, Amar Pol. C'est pour ça que c'était son titre. Mais attendez deux secondes, Nimrod il habite où?
Non.
Il habite à Ur Kasdim, à Babylone. Donc on est ici devant une coalition de rois babyloniens. Je traduis en français moderne. Nous sommes devant une coalition de l'OTAN. C'est les États-Unis, l'Angleterre et tous les pays de l'Atlantique Nord qui se sont réunis. C'est une force de frappe absolument titanesque. Ok ? Et on va voir à qui ils vont faire la guerre, ces gens-là. Asu milchama et bera melersdom. ואת בירשה מלך אמורה, שנאב מלך אדמה, ושם עבר מלך צבועים, ומלך בלע יצואר.
C'est pas rien non plus.
Mais c'est rien du tout, tu plaisantes. Alors, ces cinq rois, ils sont à tous les cinq rois d'une région que tu fais lentement avec un groupe de centenaires, un groupe de centenaires.
De vieillards.
Non, de centenaires. Un groupe de centenaires. En une demi-journée en bus, doucement. Et tu as fait tout le tour de la région de la royauté des cinq rois. C'est Sdom, Amora, Adma, Utsvoim, Vetzoar. Ça s'étend sur à peu près 20 kilomètres. De long. Allez, peut-être 10 kilomètres de large.
C'est des roitelets.
Mais évidemment que c'est des roitelets. À l'époque, chaque ville, elle a son roi. Mais là, c'est des petits machins qui font face
à des gros machins.
On est en train de dire que les États-Unis déclarent la guerre à Monaco. Voilà le rapport de force. Je sais pas. Mais c'est ça le rapport de force. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Bah oui, mais attention. C'est vrai que ces petits pays n'ont absolument pas de puissance de feu. Mais ils ont, semble-t-il, des ressources économiques très importantes. Ah, c'est Abu Dhabi. C'est pas une grande armée, mais vaut mieux pas qu'on se les mette à dos. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On nous dit ici, Asu milchama, donc et bera melech Sdom, et bircha melech Amora, shina melech Adma, shem ever melech Tzvoim belai Tzohar, kol ele chavru el emek asidim, ou Yamamelach. Donc le combat a eu lieu dans la région de Yamamelach. Et là on te dit quoi? Ben oui, parce que tu comprends. Shtem Esreshana Avdu et Kedar Laomer. Pendant 12 ans, ces rois-là étaient des vassaux de Kedar Laomer, des maîtres babyloniens. Et là j'aimerais qu'on voit deux secondes la géopolitique de l'époque. Il y a des superpuissances. Et il y a des royaumes qui sont des vassaux, qui se mettent sous la protection de la superpuissance, moyennant petit accord sympathique. Nous sommes sous la protection du géant.
C'est comme au Moyen-Âge.
Mais c'est exactement comme au Moyen-Âge. Exactement comme au Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, il n'a rien inventé.
Absolument.
Maintenant, au Moyen-Âge, il n'y a pas vraiment ça au niveau des États.
Non, c'est dans,
c'est dans l'État. Il y a le roi, il y a les seigneurs. Et machin. Mais là, on est au niveau étatique. C'est-à-dire qu'on a deux superpuissances, Babylone et l'Égypte. OK ? Et ces deux superpuissances ont plein de pays, sous de royaumes, sous leur domination. Comment s'exprime cette domination ? Ben, ils payent un impôt. Tout simplement. D'accord ? Donc on nous dit pendant 12 ans, ces rois-là servaient Kedar Laomer, il n'y avait pas de problème. Ou Beshlosh Esreshana Maradou. La 13e année, ils ont dit, dai, on arrête de payer. Ça suffit. Et donc, eh bien, la 14e année, ou Barba Esreshana, בא כדר לעומר והמלאכים אשר איתו ויקו את הרפאים באשתרות קרניים ואת הזוזים בהם ואת האימים בשווי קרתיים ואת החורי בהררם סעיר עד אל פרן אשר על המדבר וישובו ויבואו אל אין משפט יקדש ויקו את כל שדה המלאכי וגם את האמורי היושב בחצצון תמר וואו בואו לקטורזי המנה כדר לעומר היא לראיוני סקואליסיון היא לבנו בלייה mais balayer, tout simplement, il n'y a pas d'autre mot, les cinq rois de la région de la mer Morte. Maintenant, c'est sûr qu'il n'y a aucune chance, militairement parlant, pour les rois de la mer Morte de gagner contre eux. Je me mets dans la géopolitique de l'époque, ils n'ont pas dû penser qu'ils allaient faire tout le chemin, c'est quand même 1000 kilomètres. Ils ont dû se dire, ils vont nous laisser tranquilles. Ils ont fait une erreur tactique. Maintenant, au final, moi, ce qui m'intéresse, que vous n'avez pas fait attention, c'est l'itinéraire de la guerre. Rappelez-vous qu'on ne peut pas traverser en ligne droite depuis la Mésopotamie jusqu'à Israël. Impossible. Pour une raison très simple, c'est le désert. On ne fait pas traverser ni un bonhomme, ni une armée certainement pas, à travers le désert pendant 6 mois. Impossible. Donc on doit suivre les cours d'eau. Pas de problème, on va remonter le Tigre, l'Euphrate, on va arriver par au nord la vallée du Jourdain et on va redescendre tranquillement. Seulement. Voilà que donc ils vont faire tout le trajet, on ne nous parle pas de ce qui se passe pendant tout le trajet, ils arrivent chez nous. La région a problème, c'est quoi ? La mer Morte. Seulement, le tracé qu'ils font des combats fait qu'en fait, ils font très attention à une chose, c'est de ne pas rentrer en Eretz Canaan. Ils se limitent aux rives de la mer Morte. Et ils vont faire tout un tour pour pouvoir rester sur les rives de la mer Morte et ne pas rentrer dans le pays.
Pourquoi ?
Parce que Eretz Kenaan, c'est sous domination de l'Égypte. Eh bien, si les Cananéens sont attaqués, eh bien, la France et l'Angleterre sont obligés de répliquer contre l'Allemagne parce qu'ils ont envahi la Pologne. Il y a un traité de paix avec la Pologne entre la France et l'Allemagne. Entre la France et la Pologne, etc. Donc, ils n'ont pas le choix, les Français et les Anglais. Vous savez bien que ce n'est pas les Allemands qui ont déclaré la Deuxième Guerre mondiale. C'est la France et l'Angleterre. Pourquoi ? Parce que les Allemands, ils sont rentrés en allant en Pologne. Or, la France et l'Angleterre, ils avaient des traités avec la Pologne. On ne peut pas les laisser faire ça. Donc, si jamais Kedar Laomer y rentre en Eretz Canaan, c'est la Première Guerre mondiale. Et il ne veut pas ça. Pas prévu. Donc il fait très attention de ne pas rentrer en Eretz Canaan. Maintenant, toute cette histoire nous est racontée. Pourquoi ? Bah parce que finalement, ils vont arriver à Sdom. Et à Sdom, il y a qui ?
Lot.
Et donc, on comprend pourquoi tout d'un coup, cette histoire nous est racontée à ce moment-là. Abraham va être obligé de rentrer dans un conflit politique. Alors venez, on va voir ce qui se passe. ויצא מלך סדום ומלך עמורה ומלך אדמה ומלך צבויים ומלך בלע יצהר ויערכו איתם מלחמה בעמק הצידים את כדר לעומר מלך אלה ותידל מלך גויים ואמרפל מלך שינה ואריוך מלך אלעשר וארבע מלכים את החמישה ועמק הצידים בארות בארות חמר וינוסו מלך סדום ועמורה ויפלו שמה והנשארים הרה נסו. Donc la guerre, tchac, ça s'est fait dans la région de la mer Morte, et cette région est appelée Be'erot Be'erot Chemar. Ça veut dire quoi en français ?
Les puits.
des puits de... Ouais, ou alors viens, on dit ça autrement. C'est des bolanimes. Vous connaissez la situation géologique au bord de la mer Morte ? Il y a plein de terrains où on n'a pas le droit d'aller, c'est très dangereux. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les bolanes. C'est quoi un bolan ?
C'est des marécages ?
C'est pas des marécages, c'est des trous qui se forment. Tu ne peux pas les prévoir. En fait, qu'est-ce qui se passe ? Comment ça marche les bolanimes ? Comment ça marche ? Pourquoi tout d'un coup il y a un trou qui se fait ?
L'eau qui est en dessous.
Qu'est-ce qu'elle a fait ?
La terre tombe.
Elle ramollit la terre.
Ah, alors, c'est, genre, c'est des sables mouvants. Non. Mais pas du tout. Parce que non, c'est non, des trous, que, comme s'il n'y avait rien en dessous de.
Parce que l'eau est
c'est pas une fissure, c'est pas la San Andreas. C'est pas chouette. Il y a un trou, circulaire, j'exagère, mais. Oui. Un trou. Tout d'un coup, le sol, on dirait qu'il n'y avait rien en dessous et il s'est effondré.
L'eau est partie vers la mer.
Mais l'eau, elle est partie, mais il n'y a pas du sol.
Pardon ?
Il n'y a pas de sol.
Fond,
non mais attendez, quand je marche par terre, ouais. Je suis pas sur une vitre de verre, il n'y a rien en dessous. Il y a de la roche, il y a du sol. Excusez-moi, cette région, c'est quoi la teneur de la roche ?
Du sel.
Du sel.
Ah oui, bien sûr.
Du sel. Qu'est-ce qui se passe quand on met de l'eau sur du sel ? Ben, ça dissout le sel. Donc, l'eau qui arrive continuellement de l'est, enfin de l'ouest, de Jérusalem, elle descend vers l'est et elle va s'infiltrer et elle va grignoter le sel qu'il y a sous le sol. Si bien que ça va créer à des endroits des véritables zones où il y a des trous, il n'y a plus de sol parce que l'eau, elle a grignoté tout le sol, tout le sel et elle a continué à s'infiltrer, elle a été vers la mer Morte, laissant un gros trou béant qui est recouvert par la surface du sol. Et il suffit qu'il y ait une gazelle, un homme, quelque chose qui marche à un endroit où il fallait pas marcher, parce que des fois, la croûte entre le sol et le trou, il peut être de quelques centimètres. Et donc, il y a plein de zones. En fait, tout le nord de la mer Morte, vous remarquez qu'on est très très loin de la plage. Parce que c'est que des bolanimes. Donc, c'est très dangereux d'aller là-bas. Parce qu'un mec qui tombe là-dedans, même dans les livres d'histoire, on ne sait pas que tu étais là. Hein. On ne se rappelle plus de toi, c'est fini. Donc, on te dit que cette région-là, c'est une région terrible pour faire la guerre. Ils ont perdu. Et les survivants ont été où ? Dans la montagne. C'est quoi la montagne ?
Yerushalayim.
Yerushalayim ? Depuis Sdom, ils ont été jusqu'à Jérusalem ?
Ça monte.
Ben, c'est vrai, mais c'est loin quand même. Allez, un peu de géographie Eretz israélienne. Pour les tihouleurs que vous êtes. Sdom, c'est là. Jérusalem, c'est là.
Les monts de Moab.
Ils ne vont pas aller jusque-là. Alors, ils peuvent aller sur les monts de Moab, mais à condition d'avoir un bateau.
Oui.
Il faut traverser toute la mer. Je ne suis pas certain que ce soit très intelligent.
C'est Midbar Yehuda.
Ah, donc déjà, Midbar Yehuda, ça m'intéresse plus que Jérusalem. Oui. Donc, Midbar Yehuda, c'est une chaîne de montagnes. Oui. Moi, je propose qu'on aille au plus rapide. Il y a quoi en face ? En face de la mer Morte, il y a les monts de Hevron. Haré Hevron, il y a sur le Midbar Yehuda, il y a dedans Haré Yerushalayim, Haré Hevron, c'est Jérusalem là, Hevron là, c'est une chaîne de montagnes en fait. Qui habite à Hevron ? Avraham. Donc les rescapés vont où ? Chez Avraham, qui n'est autre que. Parce que pourquoi ils vont chez Avraham ? Ils ne le connaissent pas. Lot, je comprends qu'il le connaît, mais les autres. C'est pas Avraham. Ah, à moins que Avraham, on a dit maintenant, c'est plus un personnage privé. Avraham, il est l'allié de qui ?
L'Égypte.
Ben, de Pharaon.
L'Égypte.
Et Pharaon, c'est le pire ennemi des mecs qui arrivent. Vous commencez à mettre les pièces du puzzle ? Donc on va chez Avraham. Seulement Avraham, il ne veut pas en entendre parler. C'est pas son combat. C'est pas son histoire. Alors regardez ce qui se passe. ועמק הסידים ברוברות חמר ואנוסו ואנוסו מלסדום ואמורה ויפלו שם ונשארים מהר הנסו ויקחו את כל רכוש סדום ואמורה ואת כל אוכלם וילכו ויקחו את לוט ואת רכושו בן אחי אברהם וילכו והוא יושב בסדום תוסה פורסה ומתנן כיזון פחילות אבקו פחילות פחילות אבקו פלוס כליזות
C'est le neveu d'Abraham.
Et pourquoi est-ce qu'on s'acharne contre la famille d'Abraham ?
Parce
Bah, plus que ça, Amraphel, on a dit, là, c'est Nimrod. Il n'aime pas Abraham. Il a un contentieux avec Abraham. C'est vrai ? Vayavo apalit. Mis apalit, ça veut dire le rescapé. Alors, on dit le Midrash, c'est quelqu'un qui était dans la guerre, mais qui a été rescapé de cette guerre. C'est qui ? On nous dit, c'est Og. Og Melech Abashan, qui deviendra plus tard, à l'époque de Moshe, le roi de Bashan, et qui était aussi un rescapé du déluge. Bon, vous avez compris que ce n'est pas le même bonhomme. Mais il y a quelque chose qui reste de ces gens-là qui font partie des premières générations d'êtres humains qui revendiquent la primauté. Et donc, ce palit, il vient voir Abraham et lui dit « Vayavo à palit, vayaged le Abraham à Ivri » que quoi ?« Veu shochem ve'elone mamre ha'emori achi eshkol v'achi aner v'ale berit Avram » Donc on vient lui dire quoi ? Que Vaishma Avram qui nishba achiv. Donc on vient lui dire que Lot a été fait prisonnier. Mais on a bien pris le moment de nous expliquer que Avram, ici en Israël, alors oui, il a une alliance avec Pharaon, mais en Israël, il a déjà fait des alliances politiques. Puisqu'il est pote avec Aner, Eshkol et Mamré, qui sont Baalé Brit Avram. Donc vous comprenez que Avram, c'est pas du tout le mec que la Ganénette nous a présenté, qui est dans une tente, Hamoud, avec une grande barbe, et il accueille des invités. Avraham, c'est un personnage politique de premier plan. Il a des alliances internationales, des alliances internes. Il est capable de faire la guerre. C'est pas n'importe qui, cet Avraham. Pour l'instant, il fuit ce rôle-là. Mais il est là. Et puis, on l'appelait à Ivri. Pourquoi il s'appelle Ivri ? Alors, les religieux, ils disent parce que ou Avar est un art. Il est passé de l'autre côté du fleuve. Le monde entier est idolâtre, lui, il est de l'autre côté. C'est Rashi qui dit ça. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle il s'appelle Ivri. Parce que c'est un hébreu. Vous vous rappelez qu'il a une famille, Abraham ? Qu'il est le descendant des hébreux de Shem ve'Ever. Donc pourquoi c'est un hébreu ? Il fait partie d'un peuple. Ah bah oui, c'est pas idiot. Hein. Et donc, pourquoi il fait ça ? Alors Midrash nous dit que Og il fait ça parce qu'il pense qu'Avram, comme ça, va partir au combat, il va mourir et il pourra se marier avec Sarah. Ok, on reviendra sur ça plus tard. Quoi qu'il en soit, là, il part. Et on nous dit ici, « Vaishma Avram, ki nishba achiv, vayarek et chanichav yelide beito » 18 et 300 Vayirdof à Dan. Donc Avram, il a pris ses hommes et il est parti en guerre. Mise Chanicha. C'est la première fois qu'on voit le mot Chanich. Vous avez des petits-fils qui ont fait partie des mouvements de jeunesse ?
Oui.
Ouais ? Ce sont des Chanichim. Ben, c'est ça le problème.
Éducateur.
Alors. Chanichim, ça veut dire celui qui a été éduqué. Non, le mechaner, c'est l'éducateur. Le chanir, celui qui est éduqué.
Ben oui, mais il y a un mot en français.
Non. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai.
Non, parce que même chez les EI, il n'y a pas.
Non, il n'y a pas. Il y a plusieurs mots comme ça qui n'existent qu'en hébreu, qui n'existent pas dans les autres langues. C'est pas mal.
Et même un mechaner, c'est pas un
éducateur. Non, on peut dire un éducateur. Pourquoi ? Non, ça marche pas ? Ah, tu peux dire qu'ils sont des mauvais mechanrim, ça c'est un autre problème. Mais mechaner, éducateur, ça passe comme traduction. Mais attendez, moi, c'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est que là, le mot chanir, il est utilisé pour ceux qui vont partir à la guerre. C'est quand même compliqué. D'autant plus que Rashi, il dit qu'en fait, il n'a pas envoyé des hommes, il a envoyé un homme. Eliezer, son élève numéro 1. Bon, en vrai, Eliezer était le commandant en chef des forces d'Abraham. Et il y a 318 hommes. Vous croyez vraiment que c'est ça l'armée d'Abraham ? Non, 318 hommes, c'est le commando. C'est l'avant-garde. Il a derrière lui les hommes de Aner, Eshkol et Mamré. Vous comprenez que ce n'est pas le rabbi Abraham qu'on nous a présenté à l'école juive. Alors, il y avait peut-être une barbe, mais là, je peux t'assurer qu'il lui a mis un élastique et qu'il l'a... Hein, c'est pas rien. Et là, on part en combat. Et on part à la guerre. C'est la première guerre dans laquelle le peuple juif va être mêlé officiellement.
C'est un chef d'État.
C'est un chef d'État. Avant l'heure. Avant
l'heure. Hein? L'importance des armées, des écoles et de
Hanel. Comment je sais l'importance ?
Comment on sait
l'importance ? Après, parce que j'ai triché, j'ai vu ce qu'il y a marqué après. Parce que j'ai triché, j'ai vu qu'après, quand le roi de Sodome, il lui dit rends-moi tout, machin, il dit moi je veux que rien que tu me donnes. Par contre, Aner, Eshkol et Mamré, tu leur donnes leur part.
Oui.
Avec tous leurs hommes. Et de là, nous disent nos sages dans le Talmud que David Amelech, il a appris une halakha. Quand tu pars en guerre, tu donnes la même portion aux combattants qui ont porté les armes que ceux qui étaient en train de surveiller le matériel. Donc ça veut dire qu'il y avait toute une organisation de guerre. Ok, c'est pas rien.
Mais qu'est-ce que tu fais du chesed d'Abraham maintenant ?
Ah ben voilà.
C'est ça qui est intéressant.
Qu'est-ce qu'on fait ?
Mais je sais pas, je te demande.
Ben ça veut dire qu'on lui a pas laissé le choix. Mais on lui a pas laissé le choix.
De ?
Ben, que de faire le din.
Que de faire ?
Le din. Parce que là, la guerre, ça va pas être recette. Hein. Ben oui. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il veut que tu fasses quelque chose. Tu as ton libre arbitre. Pas de problème. Mais je vais te mettre dans une situation où tu n'auras pas le choix.
Oui, mais tu peux m'expliquer. Tu peux...
Bien sûr.
Tu peux expliquer la notion du shalom, du recède et du din. Ce triangle-là. Parce que si tu n'as pas de shalom, tu... Bon, le din, bien sûr, c'est... Waouh, c'est dur, le din, non ?
Oui, mais c'est vrai.
Le chesed aussi, c'est vrai.
Non, le chesed, s'il n'y a que lui, il est destructeur.
Ok.
Est-ce que tu peux me prêter, parce que j'ai des envies suicidaires aujourd'hui et je sais que tu as une arme, est-ce que tu peux me prêter ton pistolet ? Mais alors, vraiment, j'en ai pour une minute et je ne prendrai qu'une seule balle. Non, parce que j'ai envie de mourir. Alpi à chesed, tu dois faire quoi ? Tu dois... Bah si. Alpi à chesed, tu dois me le donner.
Mais non.
Chesed.
Chesed, oui.
Tu ne poses pas de questions. Chesed, c'est tu donnes.
Mais tu ne peux pas avoir shalom sans din.
Tu comprends pourquoi on a besoin de l'unité des valeurs dans le judaïsme. Donc c'est vrai qu'Abraham, il est cool au chesed. Mais là, ce n'est pas possible. C'est-à-dire ? Ça va être un grand travail pour Abraham d'apprendre Midat Adin. Tant qu'il ne va pas arriver à la Akedat Yitzhak, il ne l'aura pas accepté encore. Ce n'est qu'à la Akedat Yitzhak qui va accepter Yitzhak, le din, comme étant son fils. Mais il y a le temps. C'est-à-dire, pour l'instant, il est dans une situation où il est obligé de faire face. Et alors, comment il fait face ? Ben voilà, il naît. Attends. Va yechalek alehem laïla. Ah, agave, je n'ai pas dit, mais va yirdof ad dan. Ça a fait frémir tous les commentateurs qui ne sont pas religieux. Ce qu'on appelle la critique biblique. Ils ont dit, ben vous voyez bien que la Torah, c'est faux. Parce que comment est-ce que la ville peut s'appeler Dan ? Dan, c'est une ville dans le nord d'Israël.
Ouais.
Mais pourquoi elle s'appelle Dan ? Parce que la tribu de Dan, elle est montée là-bas. La ville s'appelait Lechem. Et ils l'ont appelée Dan au nom de Dan, le fils de Yaakov. Mais là, on est à l'époque d'Abraham.
Dan, il y en avait un. Il y avait deux.
Non, il y avait deux veaux d'or. Un à Dan et un à Bethel. Donc, mais ça veut dire que le terme Dan, c'est bien après Abraham.
Alors pourquoi on l'emploie maintenant ?
Parce que qui écrit ce texte ?
Ah, Moïse
Rabbeinu. Ah oui, mais ça ne marche pas non plus. C'est une bonne idée, mais sauf que même à l'époque de Moïse, ça n'a pas encore été fait. Ah, Pachout. La ville, elle s'appelait Dan déjà à l'époque. Sauf qu'elle ne s'appelait pas Dan au nom de Dan, fils de Yaakov. Elle s'appelait Dan au nom de la Avodazara qui s'appelait Dan. Il y avait une Avodazara dans la région qui s'appelait Dan. Tout simplement. Ok ? Des fois, les apikorsim, ils pensent qu'ils disent des grands trucs terribles contre le judaïsme, ils ne se rendent pas compte qu'ils disent des vérités, sauf qu'ils ne se rendent pas compte. C'est-à-dire, quoi qu'il en soit, il y va. Il y va, il fait la guerre, et ça marche. Vaïchalek alem laïla, ou vaavadav, vaïakem, vaïrdefem, at chova, asher mismol le davesek. Ils sont arrivés jusqu'à Damas, et il les a explosés. Si vous avez envie, un jour, de regarder la science-fiction version juive, le fantastique, l'héroïque fantasy, vous pouvez lire le livre Sefer HaYashar, qui est un midrash, mais pas autant accepté que tout le reste des midrashim. On ne sait pas trop d'où il vient. C'est pour ça qu'on lui, on l'accepte pas vraiment. C'est un mélange de Harry Potter, Percy Jackson et autres heroic fantasy. Parce que là, pour le coup, je peux te dire que dans la guerre d'Abraham contre les cinq rois, il y a des centaures, il y a des bêtes, des animaux mythologiques fantastiques, et il y a surtout une arme fantastique de Abraham, c'est le bouclier magique que quand les ennemis lui tirent dessus des flèches, ça devient des fleurs. Je rigole pas, c'est marqué comme ça. Donc effectivement, ben c'est pour ça que je te dis, c'est pas clair d'où ça vient, ce livre, c'est faire et achat. Donc,
anonyme.
Ouais, donc on le prend avec beaucoup de pincettes, on s'y fie pas beaucoup, quoi. C'est-à-dire, en tout cas, il a fait la guerre et il a gagné. Il a gagné, et Vayerdefer, Vayeshevet, Kol Arechush, Vegam et Lot Achiv, Urechusho et Shiv, Vegam et Anashim, Vetaam. ויצא מלך סדום לקראתו אחרי שובו מהכות את כדר לעומר ואת המלאכים אשר איתו אל עמק שווה הוא עמק המלך. C'est-à-dire que Abraham a gagné la guerre, il a ramené tous les esclaves, tous les prisonniers, il a ramené le butin qu'on leur avait volé et il a rendu à tout le monde. Et ils arrivent où? בעמק שווה. À la vallée de l'égalité. Et cet endroit, on l'appellera Emek Amelech. Vous savez où c'est?
C'est où?
C'est juste là.
Ouais.
C'est la vallée du Kidron. C'est, vous voyez, je sais pas moi, Nahal Kidron. Il y a des monuments de l'époque du deuxième temple, ce qu'on appelle Yad Avshalom et Kever Zecharia. Vous avez déjà été là-bas?
Là-bas.
En contrebas de la vieille ville, du côté du Mont des Oliviers. Ça marche en contrebas, c'est là-bas. Ok? Ça s'appelle Emek Amelech. Pourquoi? Nous dit Rashi, parce qu'il y avait là-bas un palais pour les rois où ils avaient l'habitude d'aller s'amuser. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin de ce que c'est s'amuser pour les rois cananéens à l'époque. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. C'est que nous dit Rashi d'Avar Acher, c'était cet endroit-là, mais cet endroit-là a été décoré aux couleurs d'Abraham parce que tous les rois de la région... Après qu'Abraham ait gagné, je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça veut dire pour Abraham de gagner la guerre contre les rois babyloniens. Vous vous rendez compte qu'on passe dans des dimensions complètement internationales. Et là, nous dit Rashi, le Midrash, qu'Abraham, quand il revient victorieux, tous les rois de la région ont voulu faire de lui le roi de tout le monde. On venait de donner les clés de la ville, du pays, à Abraham. Mais attendez, ce n'est pas exactement ce que Dieu lui a dit. Et qu'est-ce qu'il dit à Abraham? Il te dira non. Abraham refuse. Il refuse, eh ben, tout simplement, de mettre en pratique le projet divin, le projet politique d'un peuple qui a donc une dimension nationale. Pourquoi il refuse? Qu'est-ce qu'il a prévu comme objectif? Et à quoi il va être confronté maintenant que il est une personnalité publique, politique, internationale, mais que lui ne veut pas l'entendre, eh bien c'est ce qu'on verra la semaine prochaine.